santé et le bien-être dans Maïcha Bora. Maïcha Bora, c'est cette émission qui traite de tout ce qui touche aux maladies, à la prise en charge médicale et aux idées reçues sur ces maladies. Maïcha Bora, votre santé et bien-être sont au cœur de nos préoccupations, notre priorité. Tous les lundis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le mercredi à 13h30.
Comment faire face à la cherté de la vie? Bon nombre de Congolais ont de plus en plus du mal à satisfaire leurs besoins, les besoins quotidiens, les besoins de la vie quotidienne. Pour cause, les coûts des biens et services ont pris l'ascenseur alors que le pouvoir d'achat s'amenuise de plus en plus. Par exemple, les prix de certaines denrées alimentaires telles que le maïs ont été revus à la hausse dans certaines provinces du pays. Et il faut débourser chaque jour plus d'argent pour la nourriture, le transport, ainsi que pour d'autres besoins ménagers. Alors, comment faire face à la cherté de la vie? Vous avez des questions, vous avez des témoignages, appelez déjà, composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Nous avons déjà un premier invité en ligne, parce qu'on aura certainement deux invités aujourd'hui. Monsieur Ricardo Kanyama, il est entrepreneur et expert en éducation financière. Monsieur Ricardo Kanyama, bonjour. Monsieur Ricardo, vous êtes en ligne, bonjour. Bien, on va les retrouver dans quelques instants. Il n'est plus en ligne. Je disais tout à l'heure que nous parlons aujourd'hui de la cherté de la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque la vie coûte de plus en plus cher? Il faut débourser un peu plus d'argent pour le transport en commun, pour la nourriture de tous les jours. Voilà, c'est un casse-tête pour bon nombre des parents. Et pourquoi pas pour les ménagères qui doivent aller chaque jour faire les achats pour nourrir la famille. C'est pas du tout facile, ça donne beaucoup de maux de tête à nos mamans. Alors, vous vivez cette situation-là, n'hésitez pas, nous avons besoin de vos témoignages et de votre participation dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Nous rappelons, le standard est déjà ouvert, il suffit de composer le 081 890 63 94 pour vous inscrire, et nous allons vous rappeler juste après.
Le magazine Identité culturelle sur Radio Capi, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Tous les samedis à 8h30, dimanche à 10h05 et mardi à 13h30.
Bien, nous parlons de la cherté de la vie. Comment faire face à la vie qui est de plus en plus cher. On en parle aujourd'hui avec David Manou, il est coach en éducation et stratégie financière, et nous aurons également tout à l'heure monsieur Ricardo Kanyama, entrepreneur et expert en éducation financière. Des questions et préoccupations, composées déjà le 081 890 63 94. Ricardo Kanyama, bonjour. Monsieur Ricardo Kanyama, bonjour. Voilà, il y a quelques petits soucis au niveau de la liaison téléphonique aujourd'hui, parce que tous les deux invités seront au téléphone. On va tenter de changer des lignes. Bon, Tati, je le vois de l'autre côté en train de se battre pour les avoir de nouveau en ligne. Alors, nous vous rappelons en attendant, envoyez déjà vos questions, même sur Facebook. Allez sur la page Facebook de l'émission au Capi Service pour donner vos réactions par rapport à la vie chère. Combien coûtent les mécas, par exemple, de maïs à Mbujimayi aujourd'hui ou à Kananga? Ce n'est pas facile. Nous allons en parler avec nos invités aujourd'hui dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Composez le 081 890 63 94.
Le magazine Identité culturelle sur Radio Capi, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Tous les samedis à 8h30, dimanche à 10h05 et mardi à 13h30.
Oh. Nakosenga na yobosa nanga na salinyonso ekoki mpoto sangana na mariage. Nakosenga na yobosa nanga na salinyonso ekoki mpoto sangana na mariage. Christina, kanisa moke nyonso elobi na ngai, olobi na luka kisie, mpona suwa mongo tezobalana. Ngana bokoka te ya solo Christina, la vie oyanga ya bomwana. Nalingi yo ya solo Christina, nakamati desizio na mai na miso. Nakosala mikolo mpona bosa na yo mwasi na ngai. Yali boso wana moki
Et oui, et voilà, notre premier invité est en ligne, Ricardo Kanyama. Il est entrepreneur et expert en éducation financière. Bienvenue dans cette émission au Capi Service qui s'intéresse à la cherté de la vie. Ricardo Kanyama, bonjour.
Bonjour, auditeur de la radio Capi.
Alors, nous parlons aujourd'hui de la cherté de la vie. Dites-nous, monsieur Ricardo, qu'est-ce qu'il faut faire quand la vie coûte de plus en plus cher, les coûts des biens et des services ont pris de l'ascenseur, alors que le pouvoir d'achat de la population s'amenuise de plus en plus.
Ok, d'abord je m'excuse parce que la ligne n'est pas très très bonne. Je ne sais pas si nos auditeurs peuvent me suivre convenablement.
Bon, je crois que elle s'est améliorée. Il y a seulement quelques petits bruits. Je crois que ça va s'arranger de plus en plus. Allez-y, monsieur Ricardo.
Ok, je suis d'abord content de voir qu'il y a une préoccupation par rapport à la situation actuelle. Et ça, c'est très important parce que ça nous amènera peut-être à une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place, que nous devions changer. Je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence d'une politique, la conséquence d'une vie basée sur la logique des consommateurs et qui est une logique de satisfaction des besoins immédiats et sacrifiant donc le bien-être à venir. Donc notre pays aujourd'hui rencontre ces problèmes à cause, pour moi, de mon point de vue, de cette absence d'une intelligence financière ou intelligence des richesses au niveau de nos institutions, au niveau de nos familles, mais aussi au niveau individuel. Je vais vous donner un exemple de cela. Dans un monde économique, on ne peut pas avoir une diminution des producteurs et une augmentation drastique de consommateurs. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui célèbre la consommation. Tout le monde veut consommer et veut consommer immédiatement. Et très peu de gens, donc un pourcentage très réduit de personnes, doivent donc produire pour alimenter de grandes masses. Donc, les gens se contentent juste à être consommateurs ou à être intermédiaires. Et cela a comme conséquence, donc, la rareté de l'offre par rapport à la demande. Ce qui conduit, par exemple, au niveau étatique, cela a des conséquences comme l'effet des surtaxes tout. Je ne sais pas si vous voyez un exemple. Je pense qu'au Congo, nous devons être un des pays qui a les taxes douanières sur les rations alimentaires le plus élevées. Pourquoi? Parce que l'État ne voit que ses dépenses immédiates, peut-être les coûts de ses besoins, et il va augmenter les taxes sur les denrées alimentaires, sur les produits de première nécessité. Et alors, on ne sait pas que lorsqu'on augmente ces taxes, hein, le portateur, lui, ne perd rien. Il va augmenter donc le prix de ses produits, et c'est la seule personne qui doit payer ces prix, c'est le consommateur, et le consommateur, c'est qui? C'est la population. C'est pour cela, donc, d'une manière ou d'une autre, ce sont des politiques qui affament la population, et cela conduira donc la population à des situations donc de misère, de maladie, des manques d'efficacité, et qui peut même mettre notre pays à une position très défavorable par rapport à des pays voisins ou par rapport à d'autres pays du monde. Donc je pense que c'est un problème très capital qui demande qu'on ne continue plus à donner des solutions comme traditionnelles. Hein. Je rappelle ici que Albert Einstein nous a dit être insensé, c'est vouloir continuer toujours à faire les choses de la même manière et attendre que les résultats changent. Donc nous ne pouvons pas résoudre les problèmes actuels en continuant à prendre des mesures et des actions basées tout simplement sur la connaissance des consommateurs ou sur les habitudes des consommateurs, mais savoir que renverser cette situation doit passer par l'approfondissement de nos connaissances financières et savoir que la solution se trouve dans la production et non simplement dans la consommation.
La consommation. Voilà, vous avez déploré le fait qu'aujourd'hui, il y a une faible production, mais nous consommons de plus en plus, mais on ne produit pas assez. Et puis, vous avez relevé également cette question des taxes. Des produits de première nécessité, voilà, quand il y a surtaxe, et puis bon, voilà, l'opérateur économique va chercher à récupérer sur les prix des denrées, sur les marchés. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire face à la cherté de la vie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour un ménage, par exemple, qui n'arrive plus à nouer les deux bouts du mois, ou à subvenir aux besoins de la vie quotidienne?
Oui, je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'abord lancer un appel au gouvernement et à l'État, parce que c'est son rôle. On est État quand il y a une population. Le rôle de l'État, c'est de prendre soin de sa population. Donc l'État doit devenir sensible à cette préoccupation, de savoir que l'augmentation de constante et de tout le temps du prix des denrées, c'est un problème pour notre population et que notre population souffre. On a besoin donc de mesures étatiques, on a besoin des politiques, on a besoin d'un engagement politique qui aide donc à trouver des solutions afin que ces familles qui ont de grandes difficultés à nouer les deux bouts du mois puissent pouvoir s'en sortir. Donc, mais du côté, à part les engagements étatiques, je crois du niveau des familles aussi, les familles aujourd'hui doivent comprendre le rôle de s'investir dans les créations de sources de revenus alternatives. Hein, parce que qu'est-ce qui se passe? On voit parfois dans une famille qu'une seule personne travaille pour nourrir 10 autres qui, du matin au soir, sont devant la télévision à regarder toutes sortes de séries. C'est ça vraiment la pauvreté, parce que cela va à la logique de la culture de nos ancêtres. À la culture de nos ancêtres, c'est tout le monde qui contribuait pour produire quelque chose et nourrir et prendre la famille en charge. Aujourd'hui, dans des habitudes mauvaises que nous avons reçues, surtout dans les grandes villes, on voit que des enfants qui ont déjà plus de 12 ans, qui ont déjà plus de 20 ans et même 30 ou 40 ans, trouvent toutes sortes de raisons pour ne pas contribuer à la production pour faire vivre la famille. Je crois que nous devons nous mobiliser, ne pas penser comme traditionnellement que bon, les salaires sera suffisant pour résoudre tous nos problèmes, mais plutôt que la solution se trouve dans l'initiative personnelle et dans la recherche des solutions alternatives.
Alors, vous avez dit que l'État doit prendre des mesures. Quel genre de mesures, par exemple, accorder des exonérations aux importateurs?
Bon, moi je pense que ce n'est pas seulement accorder les exonérations aux importateurs, mais c'est poser la question pourquoi, par exemple, nous ici en République démocratique du Congo, avec la terre fertile que nous avons, nous devons produire, nous devons manger le maïs, c'est des semoules de maïs qui viennent du Brésil ou qui viennent de l'Europe. De savoir que la première richesse de toute nation, c'est sa terre. Donc, tant que nous resterons dans une logique d'importation même des biens de première nécessité, cela ne pourra contribuer qu'à l'enrichissement de ceux qui font l'importation et à l'appauvrissement aussi bien de l'État que de la population. Donc, il faudrait peut-être une politique qui encourage la production au niveau local. Parce que qu'est-ce qui se passe? On décourage la production locale par toutes sortes de tracasseries, des taxes, de persécutions, de difficultés parfois administratives qui fait que les personnes se résignent et tout le monde pense que la solution c'est dans l'importation. Mais aujourd'hui, n'importe quelle nation qui veut se développer doit savoir que la production intérieure, d'abord, surtout de biens de première nécessité, c'est une grande condition avant de penser le développement. Donc je crois que cette politique axée d'abord sur l'importation ou exclusivement sur l'importation doit être combattue, doit être considérée comme une faiblesse qui est à la base de la paupérisation de la population. Ensuite, oui, s'il faut réduire les taxes les taxes d'importation. Je pense que ça vaut la peine parce que ça ne sert à rien. Parce que nous ne sommes pas les seuls pays africains qui vivent de l'importation. Nos pays voisins aussi vivent des produits d'importation. Mais on se rend compte, par exemple, qu'un produit importé de la Chine coûte 3 fois plus cher à Kinshasa qu'à Luanda, qui est les pays voisins. Donc ça veut dire que notre gouvernement a la volonté de faire payer 3 fois plus les prix de la consommation à notre population. Je pense que cette mesure aussi doit être prise en charge. Et s'il y a des biens que nous devons importer, qu'on n'est pas capable de produire ici, on ne devait pas affamer la population en augmentant au-delà des limites les taxes.
Bien, on va accueillir déjà les auditeurs. Comment faire face à la cherté de la vie? Serge King, il nous appelle des Kindou et Gérard est à Djougou. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 081 890 6394.
Oh Mario,
oh, tout le monde sait.
Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi, la radio de toutes les musiques.
Comment faire face à la cherté de la vie? Serge Kingi, vous êtes à Kindou, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité du jour.
Quelle est votre préoccupation, Serge?
Oui, le sujet est tellement intéressant, d'autant plus que ça la nourriture, je pense que on ne pouvait pas tous vivre. Et j'encourage les sujets, mais aussi je tiens à féliciter aussi le gouverneur de la province qui a un peu la quantité de la nourriture ici dans la province, d'autant plus qu'il a, il a éliminé des barrières qui ne faisaient pas faire bloquer la nourriture au niveau des endroits très reculés. Eh bien,
De quelle nourriture il s'agit, Serge?
Voilà. Ici, chez nous, il y a un peu la diminution du prix, d'autant plus qu'il y a, des maïs, des maniocs, quoi que ce soit, des produits vivrières seulement.
D'accord.
Qui étaient au niveau de... Oui. Alors, le maïs qui battait record au niveau de... Il y a des bombas comme ça, je ne sais pas comment vous donner l'exemple, qui se vendait à 2000 francs, mais aujourd'hui c'est 1000 francs. On félicite un peu l'initiative du gouverneur. Les gobelets des haricots qui se vendaient à 350, à 3600, voilà, les bombas là, mais c'est à 2100, il y a un peu de diminution. Et les farines de manioc, les petits gobelets là, qui se vendaient à 200 francs, je crois, je suis avec des amis ici qui connaissent au moins les prix des produits vivriers au niveau du marché, mais actuellement c'est ça 50. Alors, ce que moi j'aimerais un peu dire au gouvernement provincial, c'est de nous venir en aide. Et je félicite une fois de plus le Pyrame. Nous, c'était le Pyrame qui est en train de nous aider avec les semences, qui continue aussi à voir les agriculteurs par-ci, par-là. Et c'est les encourage plus. Mais je me demande comment le gouvernement central peut laisser les agriculteurs en train de souffrir comme ça, sans pour autant les garder avec les produits. Alors, ma préoccupation est celle-ci. J'aimerais un peu dire à l'invité qui est là au niveau du plateau. Et puis, j'aimerais qu'il puisse lui dire ceci, qu'il puisse aider un peu au niveau national d'aménager les routes de desserte agricole. Ni sans ces routes-là, nous ne pouvons pas, en tout cas, se retrouver dans des prix-là qui sont abordables. Et puis, que le gouvernement provincial puisse prendre en charge les agriculteurs pour l'exportation de leurs produits vivriers au niveau des centres urbains. Je pense que cela nous permettra, en fait, que nous puissions bien progresser et bien être aussi en bonne santé avec tout le monde ici dans la province, mais aussi sur toute l'étendue du territoire national. Et je vous rappelle, monsieur le journaliste, la province du Maniema faisait même à exporter même les produits vivriers au niveau de Lubumbashi.
Et on faisait oui. Mais Serge, on dit oui. Souvent que la province du Maniema est enclavée et que elle vit, vous recevez tout de l'extérieur des autres provinces.
Ah bon. Nous recevons, nous ne recevons pas de l'extérieur, c'est pourquoi il y a un peu, il n'y a pas beaucoup de produits qui sont, à part Goma qui nous fournit des haricots, je ne pense pas qu'il y a encore d'autres provinces.
D'accord.
Je suis avec les amis ici.
D'accord. Merci Serge. On va donner la parole à Gérard qui nous appelle des Djougou. Comment faire face à la cherté de la vie? Gérard, bonjour.
Bonjour à Dieu Capi, bonjour à tous les autocistes.
Alors vous êtes en Djougou, bon, quelle est votre question?
Selon moi, le problème de la cherté de la vie peut se résoudre à quelques étapes de vie. Il nous faut d'abord accepter notre niveau de vie. Car plus on pense à une vie où l'on n'a pas la capacité, plus on devient fainéant, car là, on arrive à vivre le complexe de se sentir sans valeur ou inutile. Deux, il faut travailler dans tout ce que la main trouve à faire, l'agriculture dans sa grande diversité, à commencer par les projets à court terme, puis aller dans les projets à moyen terme et à arriver jusqu'au projet à long terme. Et puis, troisièmement, selon moi, je pense que l'État doit accompagner la population dans leur entreprise et non pas se transformer en dévorant qui étouffe la population par des taxes. Notre État nous étonne car les expatriés sont plus favorisés, exonérés et même à travers des nationaux, des locaux. Et souvent, les locaux ou les nationaux sont soumis à des taxes qui les étouffent. Et puis, les expatriés sont vraiment garantis pour piller les peu de richesses que les nationaux allaient bénéficier. Et puis, notre État doit savoir qu'il y a deux choses à exécuter. Il y a les devoirs et il y a les droits. Et chez nous, ce qui nous étonne,
oui,
là où il y a les devoirs de la population, c'est là que l'État est plus puissant. Et là où il y a les droits de la population, là, en tout cas, il n'y a rien qui s'observe. Comme ça, on voit même le peu que la population aurait produit. On ne trouve même pas de route pour évacuer dans des centres où on pouvait quand même trouver une chose pour survivre.
Merci Gérard Ndjougou pour toutes ces propositions. On va accueillir Constant Roméo qui nous appelle de Brazzaville. Constant, bonjour.
Oui, bonjour aujourd'hui, bonjour aussi à l'invité du jour. Je dis ce que moi je vais dire par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir. La RDC n'est pas un pays qui peut connaître le problème d'une vie chère. Donc la vie ne peut pas coûter cher à la République démocratique du Congo. Parce que la RDC, c'est un pays qui a beaucoup de richesses naturelles. Si l'État vraiment regarde ce problème des richesses naturelles, pour les exploiter aussi, les mettre à disposition de tout le pays, là, ça pourra arranger la condition de vie de tous les Congolais. Voilà ce que nous devons savoir. Même le problème des maïs qui se posent dans les Kasaï. Donc, ce sont les Kassaïens, le grand consommateur de maïs. Je sais très bien qu'eux-mêmes là produisent des maïs chez eux là-bas. Donc, ils ne peuvent pas connaître une difficulté pour la consommation des maïs. Ce qu'on doit savoir aussi, l'État doit regarder la hausse des dollars qui pose aussi un grand problème dans notre pays. Si le dollar est à la hausse, les choses aussi augmentent les prix. Donc, on doit voir, l'État congolais doit regarder comment est-ce qu'il peut améliorer les conditions de vie des Congolais. Donc notre pays, c'est un grand pays riche. Donc on ne peut pas connaître des problèmes pareils, des vies chères. En tout cas, notre gouvernement doit regarder sur ça. C'est aussi le dollar qui pose problème. Parce que dans d'autres pays comme ça, comme ici à Brazzaville, on n'a pas vraiment le problème des dollars. Si maintenant, nous, ici, c'est la monnaie locale qu'on utilise ici,
oui,
et cette monnaie ne peut pas chercher à faire augmenter les choses. Et maintenant, quand en RDC, il y a les dollars qu'on utilise, comme il y a la variation des dollars, il y a aussi la variation des prix. Comme ça, les prix va varier comme les dollars varient. Donc, on doit regarder surtout le problème des dollars en RDC. C'est surtout ce qui pose problème.
D'accord, merci. Merci Constant, on a retenu votre préoccupation. Constant de Brazzaville. Jérôme, vous êtes à Calémie, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Ça. Je pense qu'à l'époque du Zaïre, tout y avait, vous étiez encore renommé selon des convictions. Maintenant, j'ai des préoccupations. Je voudrais demander à l'invité, ce n'est pas le problème d'insécurité qui engrève notre pays. Nous serons même en visite. Si quelqu'un qui a son projet palais qui disait là, il y a beaucoup de maïma, il y a ça, ainsi que des infrastructures routières, là, des défaites agricoles, des routes qu'on n'arrange pas. Est-ce que c'est encore bloqué? Parce que nous dépendons de tout, tout, sauf je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.
Oui, désolé, la communication se détériore. On va accueillir Placide de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la cherté de la vie?
Je vous dis que si à Lubumbashi, c'est devenu. Nous sommes dans l'enfer. Je m'explique. Pour commencer à Lubumbashi, une tomate fraîche coûte de 200 francs à 400. Ici à Lubumbashi, les sociétés, les grandes sociétés qui vendent maintenant le maïs, la farine de maïs,
oui.
La farine sur tous les marchés coûte plus cher que ce qu'on achète en Zambie. Un sac coûte 2 534 farine locale. Farine importée de la Zambie, 35 000 à 40 000. Il y a eu des délégations du gouvernement central conduites par le ministre du Commerce extérieur et autres. Ils ont tenu des réunions ici. Ils ont été jusqu'en Zambie. Quand je vous parle, ma maison est à 3-4 kilomètres de route du bureau du gouverneur. Devant le bureau du gouverneur, se plaint des tracts, plein de ça. Vous croyez que les sacs de maïs, on parle que des semences. Maintenant, on y ajoute le manque d'eau et de courant. Ici, il fait 34 de température.
Oui, Monsieur Placide, revenons d'abord au sac de maïs, la farine de maïs. Vous avez dit le maïs produit localement coûte actuellement 34 500 francs congolais. Le maïs en provenance de la Zambie, ça va de 35 000 à 40 000. Avant, ça coûtait combien?
Ça coûtait 12 000 à 15. Ça, c'était importé.
Oui.
C'était moins de 10 dollars. Maintenant, nous sommes dans l'affaire. Que l'Okapi ici nous aide. Je téléphone tous les jours à la régie des eaux, tous les jours à la SNET, même à Jean-Gadou de l'Okapi. Jean-Gadou ne parle jamais de notre vie ici. Nous sommes au centre-ville. L'eau ne coule pas. On va cultiver. Il n'y a pas d'eau. Ils vont cultiver. Ici, dans le Haut-Katanga, on ne cultive pas. Depuis toujours. Vous venez de l'extérieur, je vous assure, et tout le monde casse la vérité.
Voilà, merci Monsieur Placide. Merci beaucoup pour toutes ces informations. La tomate, par exemple, à Lubumbashi est passée de 200 francs à 400 francs congolais. Alors, Monsieur Ricardo Kanyama, vous avez suivi toutes les préoccupations des auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Oui, je pense que les auditeurs sont en train de confirmer qu'il y a un problème et que réellement la population est vraiment préoccupée avec ce problème de hausse des prix des denrées, surtout des denrées alimentaires. Mais je suis en train de rappeler ici que ce ne sont pas des problèmes. Oui, sur le plan individuel, il y a des choses que nous pouvons faire, mais ce sont des problèmes qui ont leur cause de cause étatique. Je pense que les Congo, la RDC a un problème, c'est que on a mis dans notre tête que nous avons suffisamment de minerais et que nous sommes capables de vivre que de minerais. On n'a pas assez considéré notre sol ou l'agriculture en elle-même comme la base même de l'économie. Alors, Les problèmes qui se posent, par exemple, là, à Lubumbashi, si vous quittez Lubumbashi, vous passez à Likasi jusqu'à Kolwezi, parce que moi-même, je fais cette route-là quand je suis allé donner mes coachings, vous le voyez, il n'y a pas de champs, il n'y a que des blousses ou des forêts, et vous le voyez qu'il y a des véhicules qui sortent avec des minerais, parce qu'on a mis dans la tête que nous allons exporter des minerais, et les autres vont nous amener à manger, et ce qui doit être mangé à Lubumbashi doit venir de la Zambie. Ok, mais si la Zambie est un pays producteur, c'est le pays producteur qui vous impose son rythme. Alors, comment la Zambie peut produire et que la RDC n'est pas capable de le produire? C'est là où j'ai dit que c'est un problème de politique. Il n'y a pas une politique ou une volonté politique pour mener une stratégie qui permet à notre population ou à notre pays de devenir producteur de sa propre nourriture. Et c'est pour cela que c'est important de sensibiliser les autorités, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui s'entremêlent et qui s'entrelient pour arriver à produire chez vous. Je donne un exemple. Prenons le prix des carburants. Le carburant coûte aujourd'hui 2250 francs au niveau de Kinshasa. Je pense que c'est 1,5 $ au niveau de Kinshasa.
Oui.
Ok. Maintenant, imaginez-vous un agriculteur angolais qui paye le carburant à 0,5 cents. Il fait son champ, il produit 1000 sacs de maïs. Et un agriculteur congolais qui paye le carburant à 1,5. À quel prix il va vendre? De deux, les tracasseries. Savez-vous, par exemple, il y a combien de barrières de policiers ou de régulateurs de route, de quittent, par exemple, jusqu'à Kinshasa? Demandez à des commerçants qui font cette route, il y a combien de barrières? Il y a plus de barrières aujourd'hui qu'en 1997, lorsqu'on nous parlait de l'invasion étrangère.
Alors dites-nous, Ricardo, pourquoi on érige ces barrières, par exemple, des Kikwit jusqu'à Kinshasa?
Oui, mais ces barrières, tout simplement, parce que certaines autorités trouvent leur compte. Dans chaque barrière, il faut qu'ils laissent un peu d'argent, et comme aujourd'hui, tout le monde vit de l'informel, et tant que des personnes qui les appuient se retrouvent, ces barrières doivent rester là. Alors que ça perd énormément de temps aux opérateurs économiques, alors que ça décourage l'activité et aussi ça augmente énormément les prix des produits des produits locaux, ce qui fait que parfois les produits d'importation, comme il y a une certaine régularité, il n'y a pas autant de barrières ou autant de tracasseries, coûtent moins cher que de pouvoir produire localement. Ces tracasseries, ça commence même au niveau des villages, au niveau des collectivités. Aujourd'hui, des policiers, des agents qui sont même au fin fond des forêts, au niveau des collectivités, rançonnent la population tellement que les gens ont même peur de produire. À l'époque, il y avait même des agronomes au niveau des collectivités qui apprenaient à la population, qui donnaient des conseils, qui sensibilisaient pour la production. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tout le monde veut récolter là où il n'a pas semé. Alors, le rôle de l'État, c'est pas d'abord de récolter. Le rôle de l'État, c'est d'aider à la population de semer et lui va récolter une partie de ce qui est produit. Je pense que cette logique est très importante.
Ricardo Kanyama, certains disent que la vie est beaucoup plus chère dans les centres urbains, mais quand vous allez par exemple dans les villages, il y a la production agricole, les aliments, les articles coûtent un peu plus cher. Et d'ailleurs, il semble qu'il y a certains articles qui pourrissent parce qu'il n'y a pas des routes, des dessertes agricoles pour les acheminer vers les grands centres de consommation.
Oui, bien sûr, je n'ai pas bien suivi votre question parce qu'hier, vraiment, les réseaux, moi, je ne vous écoute pas très bien, je fais un effort. Ce qui s'est passé, quoi? Même l'augmentation des prix au niveau de la capitale doit avoir de l'impact au niveau des villages. Même si vous produisez à moins cher à l'intérieur pour transporter les produits à Kinshasa, on a besoin du combustible. Si les combustibles coûtent extrêmement cher. Aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes s'étaient lancés dans l'exploitation agricole au niveau des plateaux de Bateke par-ci par-là. Mais les gens sont découragés parce qu'il n'existe plus de routes. Quand les opérateurs économiques mettent leurs engins sur ces routes,
ça s'est détruit à un rythme incroyable et les prix des carburants ne permettent pas aux gens qui ont produit de se retrouver. Donc, il y a des contraintes qui doivent être prises au sérieux et je suis ici en train d'implorer et de demander que l'État puisse se pencher non à la question de savoir comment je vais mobiliser l'argent pour mon fonctionnement, mais d'abord comment je peux amener cette population et cette nation à une logique qui lui permet de produire. Il existe cette politique, oui, en Zambie, pour que la Zambie soit aujourd'hui un pays producteur et exportateur vers le Congo. Il existe cette politique dans n'importe quel pays qui a aujourd'hui maîtrisé la faim par une production conséquente. Donc il doit exister cette politique aujourd'hui. Nos autorités ne doivent pas faire de la RDC seulement un marché d'écoulement des produits venant de l'extérieur. Je vais vous donner un exemple. J'ai été autrefois à Bukavu, je n'ai pas entendu les gens de Bukavu réagir. Je parlais avec une personnalité qui est dans une fabrication de certaines boissons là-bas. Il m'a expliqué que cette boisson payait tellement de taxes que la population de Bukavu pouvait consommer une bière qui venait du Rwanda voisin et coûtait moins cher que la bière qui était produite localement au niveau de Bukavu à cause des taxes. Alors si Heineken est le même qui produit au niveau de Rwanda et au niveau du Congo, pourquoi au niveau du Congo ça doit
coûter cher?
Il y a une volonté peut-être ou une ignorance qui fait qu'on prend des mesures qui défavorisent aujourd'hui notre pays et à la longue notre pays deviendra, toutes les entreprises sont installées dans des pays voisins pour considérer la RDC comme les consommateurs et là les conséquences de ce que nous allons avoir, nous ne pouvons pas contrôler les prix tant que nous ne sommes pas producteurs. Nous serons toujours à la mesure de ceux qui ont compris qu'il faut une bonne politique pour maîtriser l'économie par une bonne production et cela va continuer à nous imposer leurs prix et nous continuerons à affamer notre profit. Je suis désolé.
Oui, je reviens à vous tout à l'heure, Ricardo Kanyama, il est temps d'accueillir deux autres auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la cherté de la vie, comment faire face à la cherté de la vie. Kachai, vous êtes à Kanyoka, Joël Zakissa nous appelle des Mahagi. Kachai, bonjour.
Bonjour, monsieur, je dis Daniel Kachama, et bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Le sujet est très important, surtout qu'ici, à Kananga, plus précisément à Kanyoka, où je vous appelle, nous connaissons un problème sérieux de la hausse des prix de maïs, monsieur Jody. Un premier...
Kachai, actuellement, un méca de maïs coûte combien là-bas?
Au moment où je vous parle, au centre-ville, le méca coûte 3000 francs, alors que dans les territoires de Djibaya, où il y avait des hostilités de Kamwina Sapu, le méca revient à 7200 francs, monsieur Jody. Alors.
Le méca, c'est la mesure.
Oui, la mesure, c'est ça. Mmh. Alors, quand au centre-ville, c'est à 3000, et au village, dans les territoires de Djibaya, 7500. 7000, monsieur Jody. Comment les gens peuvent subvenir aux besoins de la vie quotidienne. Alors, plus souvent, monsieur, je dis...
Et pourquoi à Djibaya, ça coûte un peu plus cher qu'au centre-ville?
Bon, je comprends que parce que c'est à Djibaya où il y avait des hostilités liées aux événements des tristes mémoires de Kamwina Sapu, tout a commencé là-bas, tellement que les organismes internationaux se sont penchés à ravitailler en aliments à tout toutes les populations villageoises de là. Imaginez-vous quand ils arrivent, ils peuvent donner dans une famille 1 million de francs congolais à tous les membres, à chaque membre bénéficie 1 million. Et quand ils se voient avec beaucoup d'argent, cet argent-là peut créer déjà la rareté de biens sur le marché et aussi hausser les prix de biens sur le marché. Et voilà pourquoi ils sont maintenant en difficulté. Le méca revient à 7200 francs à Djibaya. Au centre-ville, c'est 3000. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au centre-ville pour que le méca hausse de cette façon-là, monsieur Jody? Nous sommes servis par les maïs provenant de Mweka. Alors, à Mweka, c'est déjà une autre province. Le Kasaï, le découpage doit aussi être à la base de tous ces sites. Parce qu'auparavant, quand c'était le Kasaï occidental, les gouverneurs pouvaient contrôler la zone et aussi fixer le prix des taxes à percevoir par l'administration fiscale provinciale.
Oui.
Mais nous avons constaté que maintenant, certaines provinces commencent à s'autonomiser financièrement. Ils doivent chercher l'argent. Et ils ne peuvent avoir l'argent que sur base de ce que les contribuables payent. Voilà pourquoi les opérateurs économiques du Kasaï central, lorsqu'ils descendent à Mweka pour acheter le maïs, ils connaissent un problème sérieux des taxes, la multiplicité des taxes. Ça, c'est un point.
Oui.
Le deuxième point, Monsieur Jody, pourquoi maintenant les gouvernements centrales, ensemble avec les gouvernements provinciaux, ne peuvent pas amorcer des projets de développement dans chaque province pourvu que, au lieu que les Congolais s'épanchent sur les opérateurs économiques personnes privées, qui cherchent à acheter pour avoir des lucres. Alors, l'État peut déjà à ce moment-là prendre la relève pour chercher à créer des conditions de vie normales pouvant permettre à tous les citoyens, paisibles citoyens, à vivre sans que le parcours ne soit parsemé d'embûches ni des couloirs d'étranglement.
Kachai, vous voulez dire qu'il faut, vous voulez dire qu'il faut relancer l'agriculture, que les gouvernements centraux ainsi que les gouvernements provinciaux travaillent pour relancer l'agriculture.
Et surtout ça, parce que si nous commençons à déplorer d'abord à manger, nous n'avons pas à manger. Vous pensez que nous allons envisager à faire autre chose si le ventre est affamé? Alors, c'est pourquoi il y a quelqu'un qui nous disait que quand on a faim, ce qui est amer paraît même doux. Alors si on n'a pas faim, le miel ne dit plus rien. Antiluba, quelqu'un qui disait Chomba Chabulu le Mukana Mwenanzale Chijipola. Monsieur, je dis vraiment, nous voulons demander au gouvernement de pouvoir relancer l'agriculture pour nous permettre. Nous, nous sommes à Kanyoka, c'est au village, monsieur, je dis.
Oui.
Mais nous ne produisons rien. Les champs, nous avons des espaces, mais on avait donné des tracteurs aux gens pour cultiver. Les gens ont détourné, surtout les politiciens.
Mais est-ce qu'au niveau de village, on a nécessairement besoin des tracteurs pour développer l'agriculture? Parce qu'on voit au village, les agriculteurs travaillent déjà même sans tracteur.
Monsieur, je dis, quelqu'un qui n'a pas de bicette, qui peut faire seulement, il n'est pas à même de faire un hectare de maïs, un hectare seulement. Vous pensez qu'avec une petite portion de terre qu'il fait, il pourrait au moins produire deux wagons, trois wagons comme amande à moins qu'en voulais-je dire? C'est impossible. Donc il faut toujours une mainmise de l'État, l'intervention de l'État, parce que ces tracteurs-là ont été donnés, non pour cultiver au centre-ville, mais au village, parce que c'est au village où il y a beaucoup d'espace. Alors si on ne donne pas des tracteurs comme on avait donné à l'époque du président Joseph Kabila, gouvernement Kandé, et que les gens n'ont rien fait avec ces tracteurs-là, alors comment nous allons toujours continuer? Parce que l'invité a même insisté sur la production. Nous voulons consommer sans produire, travailler sans être contrôlé et produire pour dilapider même le pays que nous produisons.
Merci Kacha. Merci Kacha. Et on va donner la parole à Joël Zaki Sademagi. Bonjour Joël.
Oui, bonjour, chers amis. Bonjour également à notre invité du jour.
Quelle est votre préoccupation par rapport à la vie chère?
Okay. Merci bien de nous avoir accordé la parole. Vous savez, avant de pouvoir poser mes deux préoccupations, j'aimerais souligner quelque chose. Sachez, notre État, l'État congolais, si on voit bien, bon, il y a pas mal de domaines, il y a trop, en tout cas, tous les jours, les gens parlent, et on trouve que notre État n'a pas, n'a pas une bonne volonté de pouvoir aider sa population. Alors, nous sommes déjà habitués à cela, la vie a toujours été chère, et maintenant, moi, mes préoccupations sont les suivantes. Donc, une personne qui, à la fin du mois, a 100 dollars, et étant donné à qui chercher des vies, la personne se retrouve avec ces 100 dollars à la fin du mois, et il y a trop de dépenses. Donc, la personne serait obligée de pouvoir ajouter un autre 20 dollars pour maintenant venir au budget de la famille.
Oui.
Quel métier l'invité peut lui dire? Envie de pouvoir maximiser, envie de pouvoir gagner. Donc, si c'est 100 dollars, il aura quand même réservé quelque chose. Donc, avec ces 100 dollars-là qu'il gagne, à la fin du mois, il se retrouve avec ça. Mais il faudra qu'il ajoute encore un 20 dollars pour qu'il ait à venir au budget de sa famille. Parce que, il y a donc la vie.
Parce que les 100 dollars ne suffisent pas pour. Voilà, on comprend.
Voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça.
D'accord.
Et maintenant, la deuxième préoccupation.
Oui.
Moi, j'aurais, donc de ma manière, j'avais rêvé de pouvoir faire trop d'épargne. Donc, malheureusement, je n'arrive pas à bien à réaliser, à concrétiser. Donc, des fois, je compte faire 3, 4, 5 caisses. Comme ça, quand j'aurai quand même à dépenser, je n'irai pas tout dilapider. Alors, malheureusement, je n'arrive pas à tout concrétiser. Je ne sais pas si monsieur l'invité l'a fait m'aider, en fait, que j'arrive quand même à concrétiser toutes ces caisses-là pour qu'à la fin du mois, l'effet qu'on va me donner pourra quand même aider pour que je ne puisse pas pleurer. Parce que notre bourreau, notre État congolais, c'est un État qui voit seulement son ventre.
Ça merci, Chadrak. On va donner la parole à Chadrak Kapso de Mbujimaï. Bonjour, Chadrak.
Oui, bonjour Monsieur Jody Daniel Kachama, bonjour coach Rigardo Kanyama, bonjour à tous les invités et à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Quelle est la situation en Mbujimaï actuellement? On a appris que la vie est de plus en plus chère là-bas.
Vraiment, en Mbujimaï, Monsieur Jody, laissez-moi vous éclairer que c'est une calamité et d'ailleurs il y a des conséquences, je vous en donnerai le témoignage. D'abord, pour le moment, un méca de maïs en Mbujimaï se négocie à 8 500 à 10 000 francs. Comment peut-être...
Ça coûtait combien avant?
Auparavant, ça coûtait, il n'y a pas longtemps, à 2600, 2800, lorsqu'il y avait un lot qui se vendait en face de la Caritas. Cela émanait de Kanyama KCC. Il y avait des militaires qui avaient fait entrer de ces maïs-là.
Oui.
Et ils vendaient quand même...
À 2800 francs.
À 2800 francs. Alors, pour le moment, je vous dis, c'est compliqué. Qu'est-ce que d'abord l'invité peut un peu prodiguer, surtout au gouvernement provincial du Kasaï oriental, qui ne réagit, qui ne fait rien. Parce que aujourd'hui, je vous dis, monsieur Jody, c'est compliqué, c'est compliqué. Je ne saurais pas vous détailler, vous entrer beaucoup plus en détail parce que c'est compliqué sur la ville. Le témoignage est qu'il y a une maman qui a au moins 9 enfants. C'est matin ici, c'est dans mon cas, c'est dans la commune de la Canchi. La maman est allée hypothéquer, je ne sais pas si gager son fils.
Pour avoir un peu d'argent pour souvenir aux besoins.
Tout à fait, un peu d'argent. Alors, c'est les maris, hier, là, qui cherchaient, et la femme à la maison n'est pas là, les enfants, la misère, et en cherchant l'enfant, c'est en passant en route où il a trouvé son fils. Donc, il a voulu poser la question, « Oh, toi, comment tu t'es retrouvé ici ?»« Oh non, j'étais avec maman. Maman m'a laissé ici il y a 4 jours. » Et le monsieur avait eu peur, il est allé le laisser un peu chez un abbé du quartier, voilà, il lui a expliqué, voilà, sa maman est venue me dire, « Restez un peu avec l'enfant, donnez-moi vos téléphones avec 2000, que j'aille un peu retirer. » C'est depuis que la maman est partie. Alors, quels sont les conseils que le coach fait quand même nous prodiguer et prodiguer aux autorités qui ne réagissent pas face à cette situation? La vie de Mbujimaï est vraiment périsse, pas mal. Voilà un peu ma contribution, monsieur Jody. Je dis, je vous remercie.
Merci, Chadrak. Charles, vous êtes à Kindou. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à notre invité, à tous les auteurs de la radio Capé.
Quelle est votre préoccupation?
Oui. Oui, oui, je voulais demander à notre invité qui peut me donner un peu de stratégie. Parce qu'un travailleur qui n'est pas payé dans son travail, alors il veut produire, dans quelle stratégie qu'il peut arriver à produire, parce que lui travaille de 8h jusqu'à 16h. Alors pour quitter le travail, pour aller à la forêt, pour cultiver, ça lui coûte un peu difficile. Alors, il a fait, par exemple, moi qui vous parle, je suis travailleur à l'économie générale du diocèse de Kindou. J'arrive presque à 8 mois impayé. Je ne sais pas comment arriver même à produire, aller à la forêt, chercher une machette, commencer à acheter des semences pour faire des cultures, pour que mes enfants soient nourris. Je vis dans une vie trop, très calamiteuse. Je n'arrive pas à comprendre dans quelle stratégie je peux arriver à produire pour que je fasse face à la pauvreté. C'était ça ma préoccupation.
Merci. Ricardo Kanyama, vous avez la parole.
Voilà, et cette fois-ci, je vais parler un peu sur le plan personnel, qu'est-ce que les gens peuvent faire. Et je prends l'exemple du monsieur qui dit qu'il travaille quelque part et il est là du matin au soir et qu'il n'a pas le temps pour aller faire les champs. Quand nous parlons de production, c'est pas seulement faire les champs. Quand nous parlons de production, c'est comment trouver des stratégies pour avoir d'autres sources de revenus. Ce qui se passe généralement avec les pauvres, c'est que les pauvres pensent qu'une seule source de revenus, comme le salaire, peut résoudre tous ces problèmes. Et les restes de temps, parce que nous avons tous des journées de 24 heures. Le grand problème de la pauvreté, c'est qu'ils travaillent pendant 8 heures et ils passent les autres 8 heures soit à regarder de la musique, à regarder de la télévision, à regarder des théâtres. Il ne fait pas quelque chose qui enrichit son esprit, qui lui permettra de trouver des solutions à ses problèmes. Et il passe les restes du temps à dormir. Donc je crois que notre population, ça c'est mon point de vue, je parle comme expert en finances personnelles, doit découvrir aujourd'hui la stratégie qui consiste et qui consiste à enrichir son mental par des lectures et des études et des développements de l'intelligence financière ou même les développements personnels. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas résoudre un problème tant que vous n'avez pas de connaissances. Quand vous n'avez pas de connaissances, vous êtes petit par rapport au problème et vous ne saurez pas les résoudre. Vous parlez de vous qui travaillez, mais que fait votre femme? Que font vos enfants? Si pendant que vous travaillez, votre femme ne peut, et votre femme peut faire un jardin, il y a des jardins que vous pouvez faire le soir, parce que quand vous avez un jardin, par exemple, vous êtes dans une ville qui n'a pas d'embouteillage parce que vous êtes à l'intérieur du pays, vous pouvez arroser votre jardin le matin avant d'aller au travail et vous pouvez aller venir arroser votre jardin le soir, parce que je ne pense pas qu'à cette économie vous travaillez jusqu'à 22 heures. Ce que je voulais essayer de rappeler aux gens, notre population doit cesser de toujours trouver des justifications pour ne pas faire ce qu'il faut faire. Si nous continuons à le faire, nous avons choisi de disparaître, parce que la loi de la sélection naturelle ne pardonne à personne. Nous devons comprendre que trouver des solutions pour résoudre nos problèmes, c'est l'impératif si nous voulons continuer à être en vie, si nous ne voulons pas disparaître comme peuple. Donc, il n'est pas question de trouver des excuses, il est question de dire, nous devons agir, nous devons faire quelque chose, et quelle est cette quelque chose que nous devons faire pour pouvoir supplier au problème des salaires. Parce que le problème des salaires, on ira de mal en pire. Il est lié du fait que il y a aujourd'hui nos universités qui produisent des étudiants ou des chômeurs à un rythme accéléré. Aujourd'hui même à l'intérieur des villages, nous apprenons qu'il y a partout des ISP, partout des universités.
Donc chaque Ricardo Cagnama. Oui. Alors, on va conclure cette émission comme on n'a plus assez de temps. Nous retenons qu'il y a des choses à faire pour faire face à la vie chère du côté de l'État. Et il faut prendre certaines mesures et lancer l'agriculture particulièrement, faire face éliminer les tracasseries administratives ainsi que certaines barrières qui sont sur les routes. Et puis, vous avez dit sur le plan familial, voir comment papa, maman peuvent faire des activités pour avoir de plus en plus de revenus et faire face à la situation. Comme on n'a plus beaucoup de temps, on s'arrête là pour aujourd'hui. Nous rappelons que vous êtes entrepreneur et expert en éducation financière. Nous espérons vous avoir de nouveau la prochaine fois. Merci et à la prochaine.